Good.
Super.
Wow.
Et alors, vous avez l'impression d'habiter sur votre lieu de travail ou vous habitez dans un quartier dans lequel vous avez votre travail?
On est direct dans le vif du sujet. Hein.
C'est compliqué ça.
C'est compliqué?
Eh bien, moi je dirais que je vis sur mon lieu de travail. Je le sentais moins au début et après un an, ça s'est un peu imposé quand même. Et je le vois surtout sur les temps de pause, les week-ends, les vacances, qu'en fait c'est impossible de couper. Et qu'à partir de là, on est un peu tout le temps au travail.
Donc ça veut dire que, disons que le week-end, pour couper, t'es obligé de partir de chez toi, quoi. Ouais. C'est un peu ça, quoi.
Ou t'enfermer.
Typiquement, ce week-end, j'ai pas foutu les pieds ici, parce que je voulais faire une vraie pause. Donc, j'ai pas dormi ici, j'ai pas mangé ici.
Ouais. Ou alors t'enfermer.
Ouais, dans ta chambre.
Et toi, Marie?
Ouais, moi aussi. Quand j'ai besoin de faire une pause, je pars. Ou alors je sors pas trop de l'appartement. En fait, c'est dur ici, t'es tout le temps sollicité, donc tu descends en bas de chez toi, tu fais jamais... C'est pas comme dans un parc, quand nous ici. En fait, dès que tu descends, tu sais que tu connais tous tes voisins. Et comme on travaille ici, ben, on est sollicité aussi, en fait, quand les gens ont du mal à faire la différence.
Vu qu'il y a des événements aussi le week-end, bah, quand tu traverses la cour, là, en deux minutes, tu te fais alpaguer pour « Hey Axel, y'a que ça, tu peux me prêter un tournevis, il faut, je sais pas, prendre des photos, nanana, qu'est-ce qui se passe, t'as
les chiottes. »
Et là, tu t'en as pour une heure avant de sortir du site, quoi.
C'est
vrai,
quoi. Et ça vous est déjà arrivé de sortir et de vous masquer,
c'est bah moi j'ai de la chance parce que du coup je suis à Robin donc je suis juste à côté de la porte de sortie.
Moi je descends et c'est partout.
Hop là, je monte sur mon vélo, je suis encore sur le site et.
La technique c'est mettre ses écouteurs et tracer.
Tu fais coucou de loin et tu traces.
Et tu
ouais. Ouais. Ouais, ouais, bon week-end.
C'est vrai, on a un peu tous la même technique, j'ai l'impression.
Désolé, mais là on est samedi, c'est mort.
Et alors c'est une vie jouable ça?
Ouais, c'est plutôt. C'est parfois compliqué quand t'as envie de t'extraire de ça, mais moi je trouve ça plutôt agréable. T'as un rapport avec tes voisins que t'as pas ailleurs. C'est comme un petit village, quoi. Donc
si on habite dans un village, pas qu'on se barre tous les week-ends?
Non. Non, tu restes chez toi, mais... Je sais pas. C'est...
On va dire que la surface du site se réduisant, ça crée quand même. Je sais pas, on est quand même.
C'est dense.
C'est très très dense, ouais. Mm. J'imagine que dans un village, t'as moyen de sortir dans ta rue.
Oui, et puis t'organises pas des événements. Tu fais pas partie de la mairie, forcément, tu vois, ou... dans ton village.
Ouais, mais tu vois, même l'espace privé, il devient restreint. Parce que là on est chez moi. Et on est en train de travailler presque. Mais tu vois, c'est-à-dire que même ma cuisine, à un moment, elle devient un lieu de réunion. Même ma chambre, quand il faut accueillir des gens, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire quand même que mon intimité, elle est fragile, elle est exposée.
Elle est liée au travail directement.
Ouais, et moi j'en ai besoin, enfin, ça, à un moment ça devient vital, et c'est pour ça aussi qu'il y a des moments où je me dis bah, je vais peut-être partir quand même.
On accueille aussi beaucoup de gens de passage, donc des gens qui viennent de Marseille, de l'équipe de Marseille, qui viennent dormir à la maison quand ils sont de passage à Paris, ou alors des gens parfois en résidence, ou des copains d'autres collectifs, ou d'autres...
Il y a aussi des groupes de musique aussi, parfois,
voilà, des groupes de musique
qui vont jouer à la lingerie et qui n'ont pas de logement à Paris, ouais. On les accueille.
Et ça c'est chouette, mais parfois ça peut être... assez intrusif dans ton intimité, ouais, dans ce que dit Benjamin.
Là, quand j'étais à Venise, j'avais rencontré donc, une partie des équipes du SU Camp. Puis à un moment donné, il y avait un repas, il y avait Nicolas, Aurore, Leila et puis d'autres. Et on parlait de Coco Velten, du projet à Marseille de Coco Velten. Il était encore en projet bon, bien avancé. Quoi, là. Et on parlait du début du SU Camp, qui est le camping, quoi. Qui est le fait donc de habiter ensemble, se brosser les dents ensemble, et c'est parce qu'on se brosse les dents ensemble le matin qu'on apprend à se connaître, tout ce genre de choses. Et donc il y avait une discussion sur Coco Velten, en se posant la question, est-ce que la philosophie du SU Camp, elle existera à Coco Velten? Et il me semblait, en tout cas, moi je disais, bah, pour que la philosophie des Sweet Camp existe à Coco-Velten, sur le principe de on se brosse les dents ensemble le matin, il faut habiter à Coco-Velten. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on regarde les. Par rapport aux grands voisins, au début il y a eu cette idée on habite tous ensemble, et petit à petit, en fait, quand même, ouais. Bon, les gens sont partis, quoi.
Ah ouais.
Je sais pas, après moi ça me plaît vraiment de vivre ici. Enfin, je pense que ça nous a permis de nous connaître vraiment. On est très liés. Enfin, les gens qui habitent ici, j'ai l'impression qu'ils sont très liés entre eux. Moi, je trouve ça bien d'habiter sur le site. Je trouve que c'est une vraie richesse pour le projet, en tout cas. On a un autre rapport aux voisins, parce qu'on a les mêmes problématiques qu'eux, en fait, quand il y a une coupure.
On vit sur un projet qui est attractif et il faut l'accepter un peu quand on vient vivre ici. Ça fait un an que je suis là et j'arrive toujours pas à voir vraiment trop les habitués qu'il pourrait y avoir. C'est compliqué, hein. À chaque fois, la lingerie elle est blindée, t'es dans le bordel continu, tu te dis, attends, lui peut-être, ou peut-être elle, ou machin. Alors effectivement, t'as une mémé qui trimballe son chien tous les matins, elle, ça va. T'as un vieux qui vient boire son cadre, ça va. Mais sinon, dans, je sais pas, les gens un peu de notre génération, c'est pas évident de les repérer.
Il y en a quelques-uns, mais...
Ouais.
Mais parce qu'on fait moins de bars aussi.
Ouais, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'évites un peu les zones aussi.
Mais... Ouais, mais je pense que c'est un truc important quand même. Ouais. Parce que finalement, quand tu habites dans un endroit, toi, le petit bar où tu vas, le bar de ton quartier, bah si tu y vas, c'est aussi parce que tu aimes bien retrouver des habitués, tu fais une connaissance au bar et ainsi de suite. Là, c'est vrai qu'à la lingerie, comme c'est ouvert que le soir, et en mode plutôt festif, d'un seul coup, tu as une masse en fait qui vient. Ouais. Et dans cette masse, les gens viennent en groupe. C'est très compliqué de lier. De trouver une personne, puis se dire tiens, elle était là, et ainsi de suite. Mais tu vois, la sociabilité est rendue compliquée, quoi.
Mais même nous, parce que ça aurait pu être dans l'autre sens, c'est que les gens auraient pu commencer à nous identifier comme personnes qui travaillent ici, qui vivent ici. Et en même temps, là, on a essayé de mettre en place des maillots, des t-shirts d'équipe pour nous différencier de la foule un peu. Et je crois que personne l'aimait, en fait. Parce que t'as pas vraiment envie qu'on te reconnaisse au bout d'un moment. Genre, ouais, c'est moi. Ouais.
Genre, tu descends bas de chez toi, puis t'as le t-shirt
à 8 ans. C'est équipe grand voisin.
Et vous avez pas imaginé qu'il y ait des gens qui habitent ici, genre dans ces appartements-là, dans l'un des deux, là.
Ça va venir.
Et qui ne travaillent pas, en fait, ici. Bah, juste, ils y habitent. Juste pour... qu'il y ait ce point de vue-là de qu'est-ce que ça veut dire habiter là sans être en foyer d'hébergement d'urgence. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire si on veut vraiment jouer à la mixité? Il faut aussi jouer à la mixité des habitants, donc quelqu'un qui habite là et qui ne travaille pas. Quoi.
Ouais. C'est qu'avec Aurore, on en a parlé, justement pour pallier au vide un peu de cet appartement, voir comment on pouvait accueillir des gens gratuitement et trouver une sorte de contrepartie qui serait un investissement sur le site, un forfait, heure, semaine.
Un truc léger quand même.
Ouais, ouais.
Mais du coup, ça voudrait dire quand même des gens qui travaillent ici.
Ouais.
Parce que tu vois, par exemple, la personne des groupes qui vient, qui va venir habiter ici, la contrepartie, c'est aussi qu'elle s'implique un peu dans le projet.
Il faudrait trouver quelqu'un qui puisse habiter ici, qui ne s'implique pas dans le projet, mais qui habite là, hein. Peut-être que du coup, avec un loyer pas cher, qui serait payé en monétaire, quoi.
Ouais.
Mais qui vivrait ici, quoi, et donc qui pourrait faire des retours, quoi, sur est-ce que c'est vraiment jouable d'habiter là, fréquentation du public, ceci, cela. Enfin, toutes les questions auxquelles vous êtes un peu confrontés, mais sur lesquelles, comme vous êtes dans le en même temps, le en même temps lieu d'habitation, en même temps lieu de travail, il y a beaucoup de en même temps ici. Ouais. Vous n'arrivez pas vraiment à voir, j'ai l'impression des fois que vous n'arrivez pas vraiment à voir clair, quoi.
À avoir le recul.
Ouais.
Je pense que c'est possible. Ouais, c'est intéressant, vraiment.
C'est totalement viable d'habiter ici. Il y a pas de... Et on est à Paris, on sait que les espaces extérieurs sont rares et du coup extrêmement exploités. Et je me dis que, enfin, je sais pas, quand t'es à Mille-Montants, à Oberkampf, il y a tout le temps du monde dans la rue et ton petit endroit de calme, c'est ton studio de 20 mètres carrés. D'une certaine manière, moi là, quand je descends, bah, c'est comme si c'était, j'habitais au-dessus d'un bar, et bah, c'est le bordel le samedi soir, mais comme pour des milliers de Parisiens. Et quand je rentre dans mon appart, et bah, je vais dans ma chambre, et c'est l'endroit calme. On va dire qu'on a une rue un peu passante, mais qui ferme à minuit.
Ouais.
Faut aussi prendre ça en considération, je pense.
Donc ça va.
Mais après, tu vois, on pourrait peut-être parler un peu plus de ce que ça fait au projet d'habiter... Mais tu vois, par rapport aux autres projets, il y a ce camp où...
Comme Covelten, par exemple.
Covelten, par exemple, où ils ne vivent pas sur le projet. Je le connais pas assez, mais j'imagine qu'il y a un impact, forcément, mm-hmm. du fait qu'à 18h, les gens partent. Et donc le site, il perd son identité, elle change. Enfin, là, on parlait beaucoup du restaurant, de la cafette, où en fait, les équipes ne sont pas là. Je crois que la question des shifts est assez présente, donc de l'implication que tu donnes en plus de ton temps de travail au projet. Je sais pas, nous, je trouve les shifts, on les aborde d'une manière assez tranquille, parce que finalement, on reste un peu chez nous et on ne fait que prendre soin du site.
On ne fait que des shifts, en fait.
Ouais, voilà. Tu fais 7 heures de plus, oui, mais t'es pas loin, t'as eu le temps d'aller prendre une douche, tu manges sur place, et finalement, ramasser des verres, ouais, mais tu ramasses des verres dans ta cour, encore une fois. Donc, c'est plus simple aussi de prendre soin du site. On parle vraiment d'entretien et de...
Vous pouvez raconter ce que c'est que les shifts ?
Les shifts, c'est chaque personne de l'ISUCAM qui bosse sur un projet va dédier à peu près, je dirais, 6 heures par semaine de son temps à soit faire du bar, faire la cuisine pour les gens, enfin pour tout le monde, pour les équipes, ou alors faire le shift coordination sécurité. C'est le soir, c'est de 18h à 1h, et tu t'occupes du site et pour que tout aille bien, quoi. Donc s'il y a des bagarres, c'est toi qui appelles la sécu pour arrêter les bagarres. Faut que les poubelles soient changées, faut que les bars soient fermés.
Les toilettes soient débouchées.
Tout se passe bien, quoi.
Et c'est vrai que ça change les choses, hein, par rapport au projet. Parce que soit les gens n'habitent pas et dans ce cas-là, t'es obligé d'imposer une garde, quoi, tu vois, un tour de garde. Et donc, une astreinte. Ouais. Et donc, d'un seul coup, tu entretiens peut-être un rapport un peu trop professionnel.
Il y a un côté laborieux. Ouais.
Laborieux, ouais. Professionnel, là, c'est mon tour, hein, c'est ton tour. Et puis, tu es vraiment en mode, tu te prends au sérieux. Tu es vraiment le coordinateur de la soirée, ou tu es vraiment, tu vois. Il y a un truc, d'un seul coup, tu prends un statut, quoi. Ouais. Alors que si tu habites là, effectivement, par rapport au projet, tu n'es plus dans cette logique du statut, mais tu nettoies la cour comme n'importe quel habitant nettoierait la cour.
Bah, t'es plus attentif au dysfonctionnement, disons. Bah oui, quand c'est sale, tu nettoies. Quand il y a un truc cassé, tu te dis ah mince, ça, il faut que je pense à le réparer parce que c'est en bas de chez toi.
Ouais. Ouais. Je sais pas si tu l'as raconté, mais j'ai discuté avec une personne du public qui est venue.
Pour la première fois, elle est venue ou pas du tout?
Donc j'ai discuté avec elle me dit non, je suis venu il y a fort longtemps. Mais c'était plus petit. Et alors, je dis, mais comment ça, c'est plus petit, t'es sûr? Parce qu'avant, ça faisait 3 hectares.
Ou alors elle est venue il y a 120 ans.
Non, elle me dit, l'entrée, ça faisait quand c'était rapide et tout. Donc, elle me dit, non, mais c'était, mais c'était plus petit. Là, ça me paraît plus grand. Et alors, j'ai trouvé ça assez fou. Parce que c'est quand même plus petit physiquement. Mais en fait, l'espace public est plus grand. C'est-à-dire que la concentration du public était plus petite avant qu'elle ne l'est maintenant. Même si l'espace était plus grand, mais en fait, il y avait beaucoup plus de zones d'ombre, sans éclairage public. C'est-à-dire que l'espace était plus grand, mais il fallait être curieux et quitter la masse concentrée pour aller dans des endroits... c'est plus des petits groupes et ainsi de suite. Alors que là, d'un seul coup, la masse du public, elle est sur tout le site. Et il y a un effet de labyrinthe. Parce que, par exemple, pour passer de la cour oratoire à Robin, tu passes par un bâtiment, tu rentres dans un bâtiment, puis tu ressors du bâtiment et tu arrives dans une autre cour. Donc il y a vraiment un côté labyrinthe. Alors que dans l'autre site, tu pouvais un peu embrasser d'un seul regard la totalité de la concentration de la population, que tout était concentré sur. La population était sur un bâtiment dans lequel il y avait plusieurs entrées. Ouais. Tu te mettais devant, tu es attrapé en fait, la masse. Donc tu pouvais, de ton propre corps, considérer que tu avais tout le site, quoi. Là, il paraît beaucoup plus grand, quoi.
En fait, je suis pas sûr que ce soit, qu'il soit plus grand ou plus petit, c'est qu'il est peut-être plus accueillant. Tu vois, il est, parce qu'il est plus construit, et parce qu'il est plus construit pour les gens qui viendraient de l'extérieur.
Et moins pour ceux qui habitent.
Je pense. On a quand même beaucoup aménagé pour que le public extérieur se sente bien, qu'il y ait de la lumière partout, qu'il puisse appréhender tout l'espace rapidement, que tous les objets soient bien identifiés.
La signalétique.
La signalétique, qui est encore là sur les to-do, parce que ça ne va jamais, ça n'ira jamais tout de même. Mais,
ça sera à la fin du projet, à la fin.
Ouais, peut-être.
Ouais. Tous les panneaux.
Bah, quand il y aura écrit chantier interdit, il y aura une signalétique claire. Ce serait magnifique. Mais ouais, non, je pense que c'est... ça vient des aménagements plus que vraiment d'une surface ou d'un périmètre. Quelqu'un qui arrive ici peut percevoir la globalité de ce qui lui est proposé, à la fois par la signalétique, mais aussi par les plannings, par le programme, les machins. Je pense que là-dessus, ça, c'est, effectivement, ça doit être plus lisible qu'avant.
Il y a des règles plus établies.
Et il est plus fait pour le... Enfin, il est plus fait, il est plus, effectivement, comme tu dis, accueillant et d'une certaine manière destiné au public extérieur, quoi.
Tu sais où tu peux t'asseoir, tu sais où... Ouais.
Ce qui est un gros sujet de débat, j'ai l'impression. De où est mis l'énergie et les moyens de Yes We Camp.
Vers le public extérieur ou vers... Mais en fait, la cohabitation, elle est, c'est Adrien Collet qui est luthier.
Ouais.
Oui, l'atelier de musique.
Mm-hmm. Les cascades.
Les cascades, ouais. Et qui me disait, en fait, la cohabitation, elle est en plusieurs, de plusieurs enfin, groupes, quoi. Mm-hmm. Il y a la cohabitation entre donc, les gens qui travaillent ici, les résidents, c'est pourtant les foyers, et le public extérieur. Mm-hmm. Et donc, c'est la cohabitation de ces trois termes. Ouais. Si on enlève un de ces trois termes, on passe à côté de quelque chose. Et peut-être que sur maintenant, il y a un accent plus mis sur la cohabitation du public extérieur, parce que c'est celle aujourd'hui qui est le plus visible, mais c'est celle aussi peut-être qui a été le moins travaillée lorsque c'était la saison 1, où il fallait déjà faire la cohabitation entre les résidents et les travailleurs.
Surtout qu'avant, il y avait beaucoup plus de monde qui travaillait, de résidents, quoi. Ça a été divisé par je sais pas combien.
Ouais, c'est ça, c'est que les jauges sont un peu en train de s'inverser.
Le public et ça prend plus de part ici, enfin dans la saison 2, je pense.
Il y a moins de gens qui vivent ici, il y a moins de gens qui travaillent ici, mais il y a toujours autant de public. Du coup, forcément, la balance, elle a
même changé. Il y a plus, hein, j'ai l'impression qu'il y a plus de public. Ouais. Par rapport à...
ouais, quand on fait des soirées à 5000 personnes sur 5 ou 6 heures d'exploitation. Tu sens quand même qu'on est minoritaire.
Ouais. Ouais, mais d'où l'importance, j'ai l'impression, de trouver le... retrouver en fait le point de vue de l'habitant, quoi. Plus que jamais, j'ai presque le sentiment que... Et c'est marrant parce que si on a cette discussion, c'est aussi parce que Nicolas me disait, oui, le point de vue de l'habitant, en fait. Mais de l'habitant, il y a ce camp, pas forcément de l'habitant résident, quoi. L'habitant, il y a celui comme, c'est-à-dire celui qui a choisi d'une certaine manière d'habiter là et essayer de retrouver ce regard par rapport au site, quoi. Tu vois ? Je sais pas, moi, dans vos réunions, dans quelle mesure la parole de l'habitant est prise en compte, est discutée, est mesurée en disant oui, bon, c'est pas que Benjamin qui est en train de dire quelque chose en tant qu'il s'occupe de la programmation, c'est pas que Marion en tant que. Elle est architecte du truc, c'est pas que Axel en tant qu'il est à la communication, mais c'est aussi en tant que ces trois-là habitent le site.
Ça, on n'en parle jamais. En
jamais
c'est un peu délicat aussi, j'ai l'impression, comme sujet.
Bah,
en fait, je suis un peu mal à l'aise dans les autres des équipes, je sais pas.
Par rapport à tu payes pas de loyer.
Ouais. Peut-être que je me.
Mais on n'en parle jamais, quoi.
On en parle rarement, ouais.
Et si, attends, parce que là, tu dis, Benjamin, que si tu en parles, enfin, que tu n'en parles pas trop, c'est parce qu'il y a un autre truc qui est l'histoire des loyers pas payés, machin.
Pour moi, un petit peu. Je t'avoue, quand il y a une pause où il y a des gens qui expliquent qu'ils galèrent grave à payer leur loyer, à bouffer derrière, parce qu'on est à Paris et qu'on a des payes qui sont pas au niveau du coût de la vie à Paris, je me tais parce que je peux pas être là, genre c'est vrai que ça coûte cher, que je paye pas de loyer.
T'as un sentiment d'injustice
Je pense qu'il est, il est légitime un peu aussi.
Mais ça fait taire le point de vue possible de l'habitant pour l'avancée du projet.
Oui, un peu.
Un peu, je pense.
C'est pour ça, je pense que ça a été en discussion de payer un loyer.
Et puis on est minoritaire, les habitants c'est avant tout les gens des centres. Est-ce que nous, à 10, on a réellement quelque chose qui, à dire, je sais pas.
De dire, par exemple, les habitants, ça vaut tous les gens des centres, je pense que c'est quelque chose qui n'aurait jamais pu être dit sur la saison 1, quoi. Quand il y a camping, quand il y a, sais pas, tu vois. De dire, les habitants, ça vaut tous les gens du centre, c'est presque anti-cohabitation, ce que tu racontes.
Non, mais c'est un peu réaliste. C'est que... c'est une question de nombre.
Ouais, ouais.
Avant que donc Nicolas me dise oui, ce serait bien de voir avec les habitants les Sucamp, c'est vrai que moi, j'étais en train de me demander si on n'était pas simplement dans un centre d'hébergement d'urgence ouvert au public, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, au début, quartier, et puis finalement, du quartier, tu peux passer à centre d'hébergement d'urgence avec deux cours, un petit bar, un petit foyer. Et en fait, c'est un centre d'hébergement d'urgence qui est en train de se réinventer. Et donc, c'est plus le quartier, c'est le centre d'hébergement d'urgence avec ses horaires de fermeture et ses horaires d'ouverture. Mais en fait, dans ce truc de la cohabitation à trois termes, le principe de la cohabitation, j'ai l'impression, c'est de ne pas mettre l'accent sur l'un ou l'autre. C'est de ne pas dire c'est uniquement un espace public, c'est uniquement un centre d'hébergement d'urgence ou c'est uniquement un lieu résidentiel, en fait. Mais de se dire que donc, c'est bien les trois à la fois. Donc, par conséquent, comment faire pour que ce ne soit pas la priorité de l'un ou de l'autre, quoi.
Ouais, mais tu vois bien que là, tu en as vécu l'expérience, se satisfaire de ça, c'est pas suffisant. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, les appeler comme on veut, c'est par l'usage qui définit la perception du lieu. Et on voit bien que l'usage des grands voisins, par le public, c'est pas celui d'un endroit où il y aurait un quelconque équilibre. C'est un bar, c'est un lieu de fête.
Non mais j'entends, mais justement ça. Le public, quand il vient, il se dit ici c'est un lieu de fête, pas de problème. À partir du moment où la subjectivité de la personne qui est en hébergement d'urgence se dit je suis quand même dans un hébergement d'urgence, et à partir du moment où la subjectivité de celui qui habite ici, comme vous, vous dites, je suis bien dans un lieu d'habitation. Et que ces trois subjectivités, il faut qu'elles dialoguent. En tant que je suis résident d'hébergement d'urgence, je suis public et je suis habitant. Mais s'il y a une des paroles qui est étouffée pour des raisons indirectes, par rapport, je trouve, à l'équilibre du projet, ça peut... c'est une parole qui ne s'entend plus après.
Ouais. Ouais, mais si tu veux, vu qu'on travaille ici, notre parole, elle est déjà écoutée sur beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres cercles. Marion, elle gère les aménagements extérieurs. Quand elle dit quelque chose, elle a déjà un impact très important sur la géographie du site. Axel aussi, moi aussi. Notre parole, elle est déjà présente. Elle est déjà très présente.
Et dans la manière dont vous faites votre travail, les affects que vous avez en tant qu'habitant ici, la perception que vous avez en tant d'habiter ici, vous pensez qu'elle influe dans votre travail, dans la manière dont vous avez travaillé,
ouais, moi,
de concevoir vos projets?
Je pense que oui, ouais. Ouais, tu dessines pas, tu dessines pas les mêmes espaces si tu habites pas, je pense, ou tu vois pas les mêmes choses en tout cas. Donc je pense que oui, ça a un impact fort sur notre manière de travailler.
Ouais.
Et puis on a un rapport différent avec les habitants. Enfin, les gens nous connaissent et on a une relation de confiance qui est un peu différente avec les résidents, par exemple.
Alors j'imagine bien que quand tu dessines l'espace, effectivement, tu peux le dessiner autrement parce que tu as une connaissance fine du fait d'habiter là. Quand tu fais de la programmation artistique, le fait d'habiter là, ça influe à quel endroit? Qu'est-ce que...
Pas tant que ça, hein.
Pas tant que ça, non.
Non, parce qu'il y a quand même encore assez de recoins et de possibles à occuper. Justement parce qu'il reste de l'espace. Je suis pas obligé de me préoccuper de ces détails-là.
Mais après, est-ce que par exemple, tu programmes des trucs,
non, mais sur la
t'as
manière...
une sensibilité, ouais. Sur les gens que t'accueilles en résidence par exemple, je pense que ça peut avoir un impact sur quelle personne t'accueille ici.
Pour... C'est plutôt comment je vais l'accueillir et ce dont on va parler pour dessiner un peu le contexte d'intervention de sa part. À un moment, je suis presque en train de contourner, de décorer chez moi. Tu vois. Non mais c'est extraordinaire. presque inviter des artistes parce que j'aime leur travail et du coup je veux ça dans mon jardin. Et je peux le vendre, c'est ça qui est génial quoi. Non mais il y a presque un truc comme ça, c'est que l'installation que je suis en train de programmer, je la programme presque avant tout parce que moi elle me fait plaisir. Et que je vais pouvoir l'installer chez moi. Enfin, c'est, encore une fois, tu vois, c'est... Et tu vois, on parlait des installations.
Plaisir, quoi.
Et bien sûr qu'on se fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que le site ressemble à ça, parce, ouais. Parce qu'on a mis de l'amour. Ouais. Mais c'est un peu cliché, mais c'est sans doute vrai. On a une sensibilité un peu exacerbée des espaces, et quand tu dessines, c'est pas marqué là où ils passent les gens. On s'en rend bien compte que dans l'espace public, il y a des gros problèmes sur les zones de passage des flux et tout. Et ben nous, on les connaît, les passages des flux. On sait où ça passe, du coup, on sait où construire pour ne pas les modifier ou pour les modifier. On peut anticiper plein de choses en étant là tous les jours et en voyant les... Je pense, ouais, tous les flux, les différents publics.
Axel, toi, à la communication, comment ça influe ?
Moi, je pense que quand j'habitais pas ici, avant, et que je travaillais là, je parlais moins, par exemple, des centres, du côté social, du fait qu'il y a des gens qui habitaient ici, pour le dire au public extérieur. Parce que tu sais, il y a plein de gens du public extérieur qui n'ont aucune idée. Ils viennent juste là pour boire un coup, quoi. Et je trouve ça. Et en habitant ici, je prête plus d'attention à communiquer là-dessus pour que les gens comprennent. Et que du coup, quand ils viennent faire la fête ici, ils sont un peu plus dans leur tête. Comment dire ça ?
Conscient.
Conscient, ouais. Et qu'ils prennent plus soin du lieu aussi. Vu que maintenant, c'est plus chez moi. J'ai envie qu'ils. Tu vois, quand je les vois le soir pas ranger leurs trucs, les bouteilles, etc., ça me rend fou. Et c'est la grosse bataille, tu vois, de un peu trouver ce prétexte-là. Il y a des gens qui habitent ici, donc prenez soin du lieu, tu vois, parce qu'il y a des gens, c'est leur cours, quoi, tu vois. Et depuis que j'habite ici, c'est plus ça. Donc dans la communication, ce serait ça. Mais il n'y a pas non plus de. Autre chose, quoi. Ça va pas changer, enfin, ça change pas grand-chose dans la com. Non, pas tant que ça.
C'est pas vrai ce que tu dis.
Vas-y, dis-moi. À quel moment
Non, mais alors, peut-être pas pour la com, mais sur ton implication sur les sites, tu vois bien que c'est
oui,
pas vrai.
Oui, bah oui, ouais. Mais pas.
Si t'es directeur de site, c'est pas pour moi.
Directeur de site, c'est mieux.
C'est une blague.
C'est une blague. Depuis quelques temps, je m'acharne sur des trucs qui ne me concernent pas.
Ah, tu t'acharnes sur des trucs qui ne te concernent pas.
Qui ne sont pas dans mon travail pour lequel je suis payé, engagé, tu vois. Genre, on fait plus attention à, je sais pas, des aménagements, des trucs de poubelle, des trucs de tri, des trucs de rangement, de... Enfin voilà, quoi. C'est tout le temps un bordel continu ici. Et des fois, il faut pousser des coups de gueule. Et moi, des fois, je pousse des petits coups.
Et donc, si tu t'acharnes sur ces choses qui a priori ne sont pas censées te concerner, c'est parce que t'es habites là.
Je pense que ouais, clairement. Ouais, c'est sûr. Et parce qu'on est plus là et on voit. Enfin, moi, je vois tout, quoi. On voit tout le temps. Le soir, le matin, l'après-midi, on est tout le temps là. Du coup, dès qu'il y a un truc qui va pas.
Du coup, l'alchimie d'un projet comme celui-là, c'est aussi faire en sorte que les gens ne soient pas uniquement dans leur précaré, quoi, mais qu'ils soient concernés par ce qui, a priori, ne les regarde pas, quoi. Et le fait d'habiter là permet ça, quoi.
C'est vrai, tout à fait.
Clairement. En fait, tu te sens concerné par tout ce qui se passe ici. Donc, t'as ce soin-là que t'apportes à tout ce qui se passe ici.
C'est complètement l'inverse, enfin c'est pas complètement l'inverse, mais c'est ce qui rend très compliqué de fabriquer des profils de poste.
Bah, la fiche de poste, elle est facteur.
Voilà. C'est clair.
Bien sûr.
Toutes les missions qu'il y a sur nos fiches de poste, c'est un tiers.
Comment vous faites pour les jeunes qui arrivent et leur expliquer, ok, profil de poste, mais bon...
Ils se rendent vite compte.
C'est ça. C'est...
Les chiffres, c'est important pour ça, parce que tu partages le travail
De quelqu'un d'autre.
Dans un cadre que t'aurais jamais abordé autrement que par travailler avec eux et passer du temps avec eux. Et en fait, c'est le moment où tu te rends compte que pour moi, par exemple, pour les aménagements, c'est là où je me rends compte que y a des choses qui sont pas pratiques, des choses qui sont pratiques, des choses qui marchent pas. Je sais pas où. C'est un recul un peu sur le travail des autres. Et aussi sur ton travail que t'as dans l'usage et que t'as pas si tu le pratiques pas.
Vous l'achetez où, votre pain?
Je l'achète pas.
À la boulangerie Charbon. Mmh. Tout le temps.
Chez Charbon. Parce qu'il est bon.
Ouais, surtout.
Trop fort.
Et c'est pratique.
Vous avez reprendre le travail.
On va aller manger.
Ah ouais, manger, c'est bien, ouais.
C'est important.
Manger tous ensemble, là.
Ouais. Mathélie?
Ouais.
Presque.
Presque. Mmh. Non, pas tout le monde.